Radio Orient présente Pluriel. Pluriel animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Artoche Bakhtiari, maire de Neuilly-sur-Marne. Bonsoir.
Bonjour.
Alors, il y a quelques jours, vous avez lancé une alerte sur le racket exercé selon vous par les fournisseurs d'énergie sur les collectivités locales. Vous avez d'ailleurs créé le collectif Stop Racket Énergie. Avant de parler des réponses faites par le gouvernement, est-ce que vous pouvez nous décrire la situation dans votre ville en ce qui concerne l'énergie ?
Oui, alors la situation est vraiment catastrophique et je pense qu'elle est partagée par de très nombreuses communes en France qui, d'ailleurs, ont, pour certains maires, nous ont déjà contactés. En fait, on a, nous, un contrat de fourniture d'énergie qui arrive à terme au 31 octobre, donc dans moins d'un mois. On a, depuis plusieurs mois, demandé aux différents fournisseurs privés d'énergie de nous faire des propositions, sauf que personne ne voulait répondre à notre appel d'offres. Et donc, on est retourné vers les différents fournisseurs en leur demandant les nouveaux tarifs. Et c'est là où on a découvert le système catastrophique qui a été mis en place pour nos collectivités hein, par les fournisseurs d'énergie, puisqu'on passe de 15 euros du mégawatt-heure pour le gaz à 240 euros sur les nouvelles propositions. Donc, c'est une multiplication par 16 du tarif. Et on passerait de 65 euros du mégawatt-heure pour l'électricité à 2068, donc une multiplication du prix par 32. Ça a des conséquences dramatiques pour les collectivités, parce qu'évidemment, nous n'avons pas le budget pour financer une telle augmentation au global. Et pour la ville de Neuilly-sur-Marne, on passerait d'une facture au total sur toute la ville d'à peu près 2 millions d'euros à 10, voire 15 millions d'euros, rien que pour payer les factures d'électricité et de gaz. Donc, et en plus, nous, on a une facture qui est très importante, mais qui aurait pu être bien pire. En réalité, on a un airbag parce qu'on a la géothermie. Donc, on a un moyen de production d'énergie sur la ville qui couvre la moitié des équipements. Sinon, en réalité, on serait passé de 2 millions à 20, 25 millions d'euros, ce qui est absolument inacceptable pour les villes.
Alors, votre appel a-t-il été entendu par les fournisseurs d'énergie, mais aussi par le gouvernement ?
Alors, pour le moment, on attend de voir. En tout cas, on a été entendu par les autres élus. De très nombreux élus nous ont contactés, soutiennent, que ce soit des parlementaires ou des maires de toute la France. Et donc, je remercie vraiment tous les maires et j'encourage encore tous les maires à nous rejoindre. On a été entendu par la population aussi parce qu'on a, en quelques jours, en à peine une semaine, on a réuni 45 000 signatures, ce qui est considérable sur notre plateforme, sur la pétition et notamment qui est disponible sur la plateforme stopracketenergie.fr. Mais au-delà de ça, donc j'ai entendu Madame Borne, la Première ministre, dire au Sénat que nous ne laisserons aucune collectivité dans l'impasse. En réalité, pour le moment, nous n'avons aucune mesure concrète qui nous a été annoncée. Et le filet de sécurité qui a été présenté par Gabriel Attal est très en deçà de la réalité. Enfin, ce qui est proposé par le gouvernement, ce serait un filet de sauvetage de 600 millions d'euros. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, rien que pour la ville de Neuilly-sur-Marne, il manquerait 10 à 12 millions d'euros. Donc en réalité, on n'est pas du tout dans la bonne mesure. Et moi, ce que je demande, c'est qu'en réalité, les efforts soient partagés, qu'on ait un partage entre les fournisseurs d'énergie privés qui font des énormes bénéfices en raison de la crise actuelle et qu'on ne fasse pas supporter tous les efforts donc de sobriété et autres aux seuls habitants. Je demande à ce que ces grandes entreprises, ces fournisseurs privés de l'énergie contribuent, payent, notamment pour les collectivités, pour les villes et pour les entreprises et les citoyens qui sont en difficulté.
Donc c'est un véritable bras de fer actuellement. Est-ce que vous avez le sentiment que vous pouvez gagner ce bras de fer ?
J'espère être entendu. En tout cas, on a de bons espoirs là-dessus, mais il faut continuer la mobilisation. Aujourd'hui, j'ai conscience du fait qu'il y a vraiment une inquiétude qui est partagée partout en France sur ce sujet-là. Il faut quand même se dire une chose. Les villes, on est là, nous, à la tête de différentes villes dans toute la France, on est là pour gérer des services publics. Quand les villes sont en difficulté, ce sont les écoles qui ne seront pas chauffées. Ce seront les gymnases qui seront pas chauffés. Dans les gymnases, on ne mettra pas d'eau chaude sanitaire, c'est-à-dire qu'il y aura pas de douche chaude. Enfin, les gens devront prendre des douches chez eux. Les illuminations de Noël, on les réduit de 90% à Neuilly-sur-Marne. Les événements qui étaient prévus, on les a annulés pour une bonne partie. Donc en fait, quand on va avoir les conséquences très concrètes dans la vie des Français, je pense que effectivement, il y aura un regain d'intérêt de tout le monde. Moi, j'alerte sur la situation et j'espère effectivement que nous ferons avancer le sujet, que toutes les villes seront entendues par le gouvernement et qu'on aura des mesures spécifiques d'aide pour passer ce cap qui est extrêmement inquiétant.
Il y a un risque de faillite, même si ce terme n'est pas approprié pour les villes ?
Totalement, parce qu'en réalité, nous, comment ça marche ? On vote un budget en début d'année. Donc, par exemple, celui de 2022, on l'a voté en début d'année 2022. Et il doit être à l'équilibre, c'est-à-dire que les dépenses et les recettes doivent être à l'équilibre, au global. Ce budget doit couvrir toute l'année. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a un trou de plusieurs millions d'euros dans cet équilibre. Et que si vous n'êtes pas en capacité de faire voter un budget en équilibre, eh ben, vous ne pouvez pas voter de budget tout court. Donc, effectivement, on n'a pas le droit d'emprunter, et c'est encore heureux. Moi, j'ai pas envie d'emprunter des millions d'euros aux banques pour aller payer une facture d'électricité et donc de donner cet argent, en fait, à des fournisseurs d'énergie privés qui, en plus, font d'énormes bénéfices. Enfin, il y a quelque chose de vraiment très injuste, en fait, dans cette situation. C'est pour ça que ça a tourné et que tout le monde s'est énormément mobilisé. Il y a eu plus d'un million de vues sur Twitter de la vidéo coup de gueule que j'avais lancée. Il y a des centaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux au global. Je pense que c'est une vraie inquiétude qui est partagée. Donc oui, il y a un risque de faillite, entre guillemets, parce qu'en réalité, si les villes ne sont pas en capacité de délivrer des services, ça veut dire que les mairies vont fermer plusieurs jours par semaine, ça veut dire que des gymnases, des piscines, des patinoires vont devoir fermer, que les écoles vont être sous-chauffées. Enfin, c'est des problèmes extrêmement graves qui touchent la vie quotidienne de tous les Français dans toute la France. C'est pour ça que j'en appelle vraiment à la mobilisation de tous sur la plateforme stopraquetenergie.fr.
Zartosht Bakhtiari, pour faire face au coût de l'énergie, est-ce que certaines mairies vont être obligées de relever les tarifs des cantines scolaires ou des crèches? Est-ce qu'il va falloir augmenter les impôts locaux? Pour l'instant, vous n'en parlez pas.
Non, alors ça a déjà été fait par certaines villes. Nous, on essaye de vraiment d'éviter cela au maximum. On essaye de, par exemple, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé deux tranches de tarification supplémentaires pour la cantine, de manière à ce que la tarification soit plus juste pour les habitants et qu'elle corresponde un peu plus à la réalité des revenus des parents. Ce qu'on essaye de faire, c'est on essaye de renégocier tous les prix. On essaye de faire un maximum d'efforts et que la ville puisse supporter une part la plus importante possible, mais comme vous l'avez lu dans la presse, et effectivement il y a des exemples assez nombreux partout en France, les villes, on a un budget qui est limité, qui n'est pas un puissant fonds, on n'a pas le droit de s'endetter comme le fait l'État à plus de, enfin comme le fait l'État à plus de 100% du PIB, donc voilà, on va devoir vraiment, je pense, par justice pour tout le monde, on doit essayer d'avoir une contribution de la part de ceux qui s'enrichissent sur cette crise. Et c'est essentiel pour éviter de plomber les budgets de toutes les villes. Donc c'est pour ça que ce que je demande, c'est simplement que les efforts soient partagés par les fournisseurs privés d'énergie et que les Français, partout en France, ne soient pas les seuls à supporter toute la charge de ces contraintes.
Zartosht Bakhtiari, on a parlé des charges pour les villes et notamment votre ville. Quelles sont aussi les conséquences de cette crise énergétique, de l'inflation sur les habitants de Neuilly-sur-Marne? Est-ce que vous voyez aujourd'hui des familles basculer dans la pauvreté?
Totalement. Par exemple, à Neuilly-sur-Marne, on a une épicerie sociale qui fait un formidable travail. Il y a des gens qui y sont inscrits. Moi, j'en ai parlé avec celui qui gère l'épicerie sociale et toute l'équipe. Il y a des personnes qu'ils n'avaient jamais rencontrées jusqu'à présent. Il y a de plus en plus de monde et il y a des profils très différents de ceux qu'on avait auparavant. Auparavant, nous avions, et même au CCAS, au Centre Communal d'Action Sociale de la Ville, auparavant, on avait vraiment des personnes qui étaient un peu marginalisées, qui étaient en dehors de l'emploi. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on retrouve dans tous les bénéficiaires de l'ensemble des services sociaux et des différents services qui aident les personnes, les Restos du Cœur et autres, on retrouve des personnes qui sont en emploi. On a même parfois des fonctionnaires. Moi, j'ai rencontré une fonctionnaire du ministère de la Justice qui est bénéficiaire de ces services. C'est quand même dramatique et c'est inquiétant donc pour l'avenir. C'est la raison pour laquelle je demande vraiment un sursaut, parce que honnêtement, je pense qu'on est sur un terreau qui est extrêmement fragile et qui est incandescent. Demain, on peut avoir un mouvement qui est encore plus massif que celui des Gilets jaunes si rien n'est fait et si la colère est... toute la détresse des habitants n'est pas entendue par le gouvernement.
Alors depuis votre élection, les crises se multiplient. Les maires ont été en première ligne pendant le Covid. Ils sont à nouveau aux premières loges pour cette nouvelle crise liée à l'inflation. Comment protéger le pouvoir d'achat des habitants? Quels sont les leviers qui sont à la disposition des maires?
On n'a pas beaucoup de leviers, très honnêtement, parce que c'est les différentes difficultés qui sont traversées par la population relèvent de décisions qui sont nationales et notamment d'aides gouvernementales ou en tout cas de mesures d'action gouvernementales. Nous, maires, on est quand même assez largement démunis. En plus, on a des dotations qui baissent d'année en année. Et si en plus on nous grève nos budgets communaux par des flambées de prix qui sont absolument impossibles à affronter, à surmonter, ça veut dire qu'on met en situation les villes de ne plus pouvoir être aux côtés des plus fragiles. Et c'est là tout le drame de la situation actuelle. Si les villes qui sont vraiment un niveau de proximité essentiels dans le quotidien des Français ne peuvent pas faire face et ne peuvent pas répondre aux appels au secours des habitants, on bascule dans quelque chose de vraiment dramatique et une paupérisation, une pauvreté généralisée. Donc, encore une fois, j'en appelle vraiment à un sursaut du gouvernement pour nous entendre et nous aider. Parce que si les villes ne font pas tampon, si les villes ne sont pas présentes aux côtés des habitants, on peut très vite basculer dans une sorte de chaos généralisé.
Zartoche Bakhtiari, il y a un sujet dont on parle finalement assez peu, c'est le manque criant de logements. En tant que maire, j'imagine que c'est un sujet sur lequel les habitants vous sollicitent régulièrement. Quels sont les pouvoirs du maire en matière de logement, notamment le logement social ?
En réalité, ils sont assez là aussi réduits parce qu'on a retiré au fil des années les pouvoirs, le pouvoir du maire. Donc effectivement, on a une ville avec plus de 40% de logements sociaux à Neuilly-sur-Marne. On voit qu'il y a une crise, il y a beaucoup de demandeurs et on n'arrive malheureusement pas à répondre à toute la demande. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, plus on est proche de Paris, plus on a des demandeurs de logements. Mais pour une raison très simple, c'est que quand on étend les banlieues, on a besoin d'avoir les infrastructures qui vont avec, on a besoin des transports, des commerces, on a besoin des équipements, de la culture, de l'éducation qui va avec. Sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des villes proches de Paris ou qui sont bien desservies. Donc là, effectivement, il y a beaucoup de demandes, telles que la nôtre. Et plus on s'éloigne du cœur des villes, plus on s'éloigne de Paris, alors plus il y a de logements, c'est vrai, mais on manque d'équipements, d'infrastructures. Donc, ce qui fait qu'on a une concentration de demandes dans nos villes. Si on dépassait simplement cette question micro-locale, moi, je pense qu'il faudrait vraiment une coordination pilotée ou une planification, si vous voulez, de l'ensemble des acteurs. Quand on construit des logements, il est impératif d'avoir les transports, les équipements et tout ce qui va avec dans une même temporalité. Je vous donne un exemple très simple. À Neuilly-sur-Marne, on a notamment une ZAC avec des nouvelles constructions de logements, sauf qu'on a attendu 2 ans pour avoir des commerces, sauf qu'on n'a pas encore la ligne 11 du métro qui avait été promis, sauf qu'on a un manque criant d'équipement. Donc, en fait, on a des quartiers qui se referment sur eux-mêmes et pour lesquels il n'y a pas d'équipement au regard du besoin, et on bascule à nouveau dans une dégradation de ces nouveaux quartiers. Donc il faut vraiment une planification coordonnée de la construction de logements avec les équipements qui vont avec, et d'autre part, on a connu l'exode rural, et je pense qu'aujourd'hui il y a une vraie aspiration à une sorte d'exode urbain également. Parce qu'aujourd'hui, on a 50% de la population sur toute la France qui est concentrée sur 3% de la surface globale du territoire. C'est en plus de cela, on a 3 millions de logements qui sont inoccupés. Donc au lieu de faire des banlieues de plus en plus étendues, je pense qu'il faudrait réinvestir pour revitaliser les territoires partout en France et permettre à toutes et tous de bénéficier de logements pas forcément à côté de Paris, mais aussi un peu plus loin en province. Par contre, il faut qu'il y ait les emplois qui vont avec, il faut le tissu commercial, le tissu éducatif qui fait que ces secteurs puissent vivre. Donc voilà, moi je pense qu'il ne faut pas réfléchir uniquement au niveau micro-local, mais élargir en coordonnant la construction de logements avec les équipements et d'autre part, remettre de l'argent sur la revitalisation de la ruralité où il y a énormément de logements qui sont vacants.
Alors dans le prolongement de ce que vous dites, Zartosht Bakhtiari, j'aimerais qu'on parle de la nouvelle loi sur l'asile et l'immigration prévue en 2023. Emmanuel Macron souhaite que les primo-arrivants soient répartis autrement sur le territoire national, par exemple en zone rurale, vous qui êtes un maire de Seine-Saint-Denis, c'est une bonne idée ?
Attention à une chose, on ne peut pas effectivement concentrer tous les nouveaux arrivants aux mêmes endroits. Parce que en réalité, ça crée des difficultés d'intégration, ça crée des demandes concentrées sur de mêmes collectivités ou dans le même secteur. Donc effectivement, je pense qu'il ne faut pas concentrer tout le monde aux mêmes endroits. Mais il y a un enjeu qui est primordial, et je pense que la loi Asile-Immigration n'y répond pas vraiment de manière suffisante. Le vrai enjeu de l'immigration, c'est celui qui permettra l'intégration et l'assimilation. Et pour cela, pour moi, ce qui est primordial, c'est de lutter contre l'immigration illégale. C'est l'immigration illégale qui nourrit les passeurs, qui maintient les gens dans la pauvreté de fait, parce que la personne qui arrive de manière illégale n'a pas le droit de travailler de manière légale. Donc ça crée également des dérives importantes. Donc je pense que il faut une immigration qui soit cadrée et qui permette une assimilation à la société et ne pas verser encore dans de nouvelles lois, de nouvelles normes. On a des personnes qui sont sur le territoire français pour lequel il y a des obligations de quitter le territoire français et seulement 7% des OQTF sont mises en application. Donc je pense qu'il faut arriver sur une immigration qui soit maîtrisée et éviter qu'il y ait encore des personnes qui sont dans la situation de l'illégalité qui restent sur le territoire français, parce que quand quelqu'un arrive, s'il n'arrive pas à s'intégrer dans la société, il reste en marge de la société, il se marginalise chaque jour davantage et ça crée de nombreuses dérives. Donc je pense que c'est ça le vrai enjeu d'immigration, au-delà de demander aux gens d'aller un peu en province et de ne pas concentrer tout le monde aux mêmes endroits.
Merci Zartosht Bakhtiari, je rappelle que vous êtes maire de Neuilly-sur-Marne. Bonsoir.
Merci à vous.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.